Chapitre 8. Après une autre journée de travail épuisant, sans la moindre occasion de se faire la belle, Bannon se laissa glisser sur le plancher, non loin de la proue du bateau de calvaire. Avec la tombée de la nuit, le ciel s'emplit d'étoiles, mais les nouvelles constellations semblaient très lointaines et indifférentes au sort des hommes. Quoi qu'il en soit, Bannon entendait continuer à se battre avec l'ambition de sauver autant de gens que possible, sa raison de vivre désormais. Pendant qu'on les enchaînait, les quelques 50 compagnons de malheur du jeune escrimeur grognèrent et gémirent. Avec l'obscurité, les sons qui montaient des marécages se faisaient plus forts. Partout, des prédateurs émergeaient de la boue et de l'ombre, prêts à se mettre en chasse. Peu enclin à se lamenter sur son sort, Bannon vibrait de colère et de détermination. Mais son corps le torturait et la faim menaçait de le rendre fou. Les autres esclaves, il le savait, n'étaient pas mieux lotis. Après des jours de labeur, plusieurs galères étaient pratiquement réparées. Presque toutes les planches de la coque remplacées, équipées de nouveaux mâts, leurs fusées de vergue changées et leurs cales vidées, ces navires pourraient bientôt reprendre la mer. Résolu à saboter le travail, Bannon avait laissé des défauts partout où c'était possible, mais pas assez, hélas, pour provoquer un désastre. Jusque-là, 7 membres de son groupe étaient morts et d'autres ne tarderaient pas à périr. Par bonheur, il était en bien meilleure forme que les autres, grâce à l'entraînement dans les fosses de combat. Ses camarades, au contraire, menaient depuis toujours la belle vie à Île Dakar. Prisonnier des Norokaïs, il ne survivrait pas longtemps. Impatient de guerroyer, le roi calvaire passait ses nerfs sur ses sujets. L'après-midi, il avait rugi au visage de Gara et de 2 autres charpentiers.
« Vite, je ne peux plus attendre. Nous devons regagner nos îles.
Mon roi !» avait répondu Gara. « Dès ce soir, 4 galères seront prêtes au départ. Je m'y engage. »
Pieds et poings liés et enchaînés à une ancre, Bannon n'était pas loin de se lamenter. Si les réparations étaient un calvaire, naviguer serait encore pire et sans espoir de retour probablement. Coupé de ses amis, Bannon se désolait aussi de la disparition d'Île Dakar. Malgré ses défauts cachés et ses secrets honteux, la ville avait un gros potentiel. Débarrassée de Tora, elle aurait pu redevenir le joyau du monde ou presque. Lila avait tout fait pour que Bannon reste à Île Dakar. À présent, la Moracite n'était plus là et il en souffrait, bizarrement. Bien entendu, sa protectrice lui manquait en tant que telle, mais il n'y avait pas que ça. Au début, elle faisait seulement son devoir en veillant sur lui, puis quelque chose était arrivé. Nathan aussi s'en était allé, mais lui, il devait être encore vivant. Son don revenu, il n'était pas homme à se laisser faire. Et Nietzsche ? Où avait-elle donc atterri après la disparition d'Île Dakar ? Bannon doutait de revoir un jour ses 3 amis, ou ne serait-ce qu'un. Enchaîné sur une galère, il était perdu pour le monde.
« Douce mère la mer !» marmonna-t-il.
Certes, il était dans de sales draps, mais son optimisme résistait. À coup sûr, il survivrait, puis participerait à la défaite de ces maudits Norokaïs. Alors que les bruits de la nuit retentissaient à ses oreilles, l'estomac de Bannon se réveilla. Le jour, les esclaves étaient obligés de boire l'eau glauque du fleuve. Quand l'un d'eux vomissait, un garde lui jetait un seau d'eau dessus, histoire qu'il n'empuantisse pas tout le monde. Avec l'obscurité, Bannon vit les lanternes qui brillaient sur presque toutes les galères rangées le long de la berge. Les 4 de tête étant parés à appareiller, le roi abandonnerait très bientôt le gros de sa flotte. Charriant une sorte de baignoire en bois, 2 Norokaïs entreprirent de remonter la longue rangée d'esclaves. L'un d'eux brandit une louche pleine d'un mélange d'eau boueuse et d'entrailles de poisson.
« La bouffe, Tatien !»
Le premier esclave détourna la tête, révulsé, mais le garde lui jeta sa ration au visage. Alors que des viscères glissaient le long de ses joues, l'homme s'avisa qu'il n'aurait rien d'autre à manger. Entravé comme tout le monde, il tenta en vain de récupérer des immondices avec sa langue. La leçon retenue, l'esclave suivant serra les poings et ouvrit la bouche afin que le Norokaï le nourrisse, si on pouvait appeler ça ainsi. Derrière les 2 gardes, Crayeux sauta d'un pied sur l'autre.
« le dîner, mon poisson, votre poisson !»
L'avorton plongea une main dans le récipient et en sortit une tête puante qu'il lança en l'air avant de la rattraper entre ses dents comme un chien de cirque. Tout en mâchouillant, il approcha de Bannon.
« Des poiscailles ont tenté de me bouffer et maintenant c'est moi qui les dévore !»
À la lumière naissante de la lune, Bannon vit très nettement les morsures sur les chairs de l'albinos. Quelle épreuve avait-il donc subie pour sombrer ainsi dans la folie? Sans être un génie, le jeune escrimeur aurait parié que c'était lié au poisson.
« Ils ne t'ont pas assez bouffé !»
grinça Bannon entre ses dents. Crayeux le rejoignit et s'accroupit.
« Tu te trompes! Ils ne se sont pas privés !»
Crayeux posa une main sur son pagne, là où auraient dû se trouver ses attributs virils.
« Certains organes, ils auraient pu me les laisser, mais... Eh bien, ils m'ont aussi offert quelque chose !»
Crayeux se pencha tellement que Bannon sentit l'odeur du poisson pourri dans sa bouche.
« Mon pouvoir! Voilà ce qu'ils m'ont offert! Je vois des choses, l'avenir, les villes en feu, les lames rouges de sang, les victimes qui hurlent, de bons hurlements, je crois. »«
Sûrement, si des norukais les poussent en crevant !»
Le chaman ne releva pas la provocation. Au contraire, il inclina la tête comme s'il tendait l'oreille.
« Oui, certains de ces cris sortent de la gorge de mon peuple !»
Une révélation faite sur le ton de la confidence. Une nouvelle fois, Crayeux semblait fasciné par Bannon, comme s'il l'estimait différent des autres prisonniers. Quand les deux gardes arrivèrent à son niveau, Bannon banda tous ses muscles. Puis il leva la tête pour accepter l'ignoble rata. De force, il en aurait besoin quand le jour serait venu. En attendant, il faillit vomir quand un flot de détritus puant se déversa dans sa bouche. Stoïque, il les avala sans mâcher. Près de lui, Crayeux aussi inclina la tête comme un oisillon qui demande la béquée. Indifférent, le garde lui balança une louche de bouillie dans la figure. Ravi, l'avorton saisit une petite tête de poisson et l'observa un moment.
« Tu n'as pas eu de tête, toi? Un régal !»
Avant que le jeune escrimeur puisse protester, Crayeux lui fourra le déchet immonde dans la bouche. Cette fois, il grimaça en avalant.
Pourquoi ce fichu albino s'intéressait-il tant à lui?
Des roulements de tambour retentissant à la poupe, le roi calvaire vint se camper sous la lumière des lanternes. Dans un silence soudain total, le souverain beugla comme à son habitude.
« Ces quatre galères sont sur le point de partir. Quatre, ce sera suffisant pour semer la terreur tandis que nous descendrons le fleuve. Une fois de retour au bastion, nous commencerons notre glorieuse guerre. »
Crayeux se leva d'un bond.
Mon roi calvaire, pour eux tous, ce sera un calvaire.
Le roi leva son lourd bâton et l'abattit de nouveau sur le tambour géant. Sur presque tous les autres navires, des vivas firent écho à ce son martial. Bientôt, ces navires-là, réparés aussi, pourraient partir à leur tour.
Sur le chemin de l'estuaire, reprit Calvaire, nous pillerons des villages. Dans nos îles, une seconde flotte doit déjà être prête.
Calvaire tourna la tête en direction des autres navires.
« Finissez les réparations et rejoignez-nous le plus vite possible !»
Un poing levé, la chaîne qui saignait sa taille cliquetant, le roi ordonna qu'on jette l'ancre.
« Nous vous montrerons le chemin !»
s'égosilla-t-il. Sur les quatre galères réarmées, les marins levèrent les voiles bleues foncées. Bannon crut qu'il allait vomir. Loin d'Île Dakar, enchaîné à bord, il n'aurait aucune chance de s'évader. Tirant sur ses liens, il tendit le cou pour voir les broussailles sur la berge. Si seulement il avait pu sauter de cette galère de malheur. Depuis sa cachette, sur la rive, Lila étudiait les galères. Certaines, dont celle de Bannon, étaient réparées et prêtes au départ. Dans l'obscurité, la Mauracite entendait les roulements de tambour couverts par l'incroyable voix de Calvaire. Pendant les réparations, contrainte d'attendre, elle avait conçu un plan puis préparé un piège. Avec les lianes et les arbres disponibles en abondance, elle avait fabriqué ses outils, trimant en silence sous le couvert de la nuit. Les Norukais ignoraient sa présence, son plus grand avantage qu'il convenait de ne pas gaspiller. Des dizaines de plans avaient fini aux oubliettes parce qu'ils risquaient d'échouer. Dans cette affaire, Lila ne pouvait s'autoriser aucune erreur. S'il n'y avait eu qu'elle comme enjeu, elle aurait jeté la prudence aux orties et chargé certaines d'abattre une dizaine de Norukais au moins avant de succomber. Mais elle avait un objectif supérieur désormais. Sauver Bannon. Pour ça, il fallait empêcher les galères de partir. Après des jours de labeur, elle était peut-être en mesure de le faire. Avec les lianes, elle avait plié en arrière des arbres, histoire de les transformer en catapultes. Chaque nuit, elle avait dû se défendre contre des dragons des marécages, des serpents géants et des araignées venimeuses plus grosses que des rats. Évitant certains prédateurs, elle en avait tué beaucoup d'autres, et maintenant, tout était prêt. Ancre levée et voile déployée, les quatre galères se mirent en mouvement. Lila n'aurait qu'une seule chance, et elle le savait. N'ayant pas pu essayer ses catapultes de fortune, elle allait devoir tirer au jugé en espérant que la portée serait suffisante. Ses armes végétales, la Moracite les avait chargées avec des ballots compacts de brindilles et de lianes aisément inflammables et qui fendraient l'air comme des projectiles. À présent, il ne restait plus qu'à couper les cordes. Quand les galères s'ébranlèrent, Lila frotta la lame de son couteau contre son morceau de silex et embrasa ses boulets. Lorsque ce fut terminé, une odeur de bois vert en feu monta à ses narines. D'un coup sec, l'artilleuse improvisée coupa la première corde. Avec un sifflement, l'arbre se redressa et propulsa dans l'air une première boule de feu. Autour de la deuxième catapulte. Alors que le premier projectile s'écrasait sur un navire, pas celui de Bannon heureusement, le deuxième zébra l'air. Les marins de la galère touchés se précipitèrent pour éteindre les flammes avant qu'elles attaquent le pont. La deuxième boule de feu survola le navire suivant et alla s'écraser dans le fleuve où les flammes s'éteignirent en crépitant. Le troisième boulet, lui, fit mouche sur la galère déjà touchée. Se propageant à toute vitesse, les flammes s'en prirent à la voilure. Les Norukai voulurent jouer les pompiers, mais ils perdirent vite le contrôle de la situation. En flammes, le navire évoquait une torche géante dérivant sur le fleuve Chasse-Corbeau. Craignant de s'embraser aussi, les trois autres galères s'écartèrent de leurs sœurs blessées à mort. Comme leur roi, les Norukai beuglèrent des insultes aux lâches agresseurs cachés sur la berge. Sortant du couvert des broussailles, Lila approcha de l'eau pour mieux contempler son œuvre, puis elle se renfonça dans les ombres, très contente d'elle-même. Les trois galères continuèrent de dériver loin de celle qui se consumait. Le roi et son équipage étant incapables de secourir la galère en feu, le navire amiral s'éloigna aussi vite que possible du site de la catastrophe. Toujours entravé et enchaîné, Bannon eut du mal à ne pas crier de joie en voyant des marins affolés sauter à l'eau pour fuir l'incendie. Qui avait donc lancé cette attaque audacieuse? Quel beau spectacle, tellement grisant pour le moral! Quelqu'un luttait encore. Quelque part, il restait au moins une personne libre et déterminée. Plusieurs, peut-être. Autour du jeune escrimeur, des prisonniers criaient d'allégresse. Impitoyables, les gardes-churme les rouèrent de coups pour qu'ils se taisent. Alors que la galère s'éloignait de la falaise, Bannon garda les yeux rivés sur la berge. Soudain, il aperçut la silhouette d'une jeune femme. Pas n'importe laquelle, aurait-il juré. Lila. Même si la galère de Calvaire l'emportait vers une mort certaine, Bannon explosa de joie à l'idée que sa compagne était toujours vivante et indomptable.